Nos vies changent, nos vies bougent. Chaque soir, France Culture suit les mouvements de notre société. Vendredi, Frédéric Worms.
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, les contre-pouvoirs au cœur de la bataille avec Céline Spector et Jean-Claude Monod. À présent, ce soir, les contre-pouvoirs au cœur de la bataille. Une idée simple est au cœur de la démocratie et peut-être de toutes les batailles de la démocratie, et peut-être particulièrement aujourd'hui, celle de contre-pouvoir. Contre-pouvoir, l'idée est simple, mais le mot est trompeur. Le contre-pouvoir ne vient peut-être pas après le pouvoir, mais dans l'expérience même du pouvoir, et peut-être pas seulement dans les institutions, mais dans tous les domaines, dans la presse, dans la police, dans l'université, peut-être même jusque dans la santé, le contre-pouvoir est vital dans notre vie. Nous en parlons ce soir avec deux spécialistes de philosophie politique, Céline Spector, professeure à Sorbonne Université, et Jean-Claude Monod, directeur de recherche au CNRS. Céline Spector et Jean-Claude Monod, bonsoir à vous deux.
Bonsoir Frédéric Worms.
Bonsoir Jean-Claude Monod, est-ce que vous nous entendez aussi ?
Tout à fait, oui, bonsoir Frédéric Vance.
Toujours une petite frayeur quand on est à distance comme on l'est dans ces temps un peu particuliers. Merci d'être là ce soir justement malgré tout à distance et pour parler de cette idée des contre-pouvoirs que vous avez abordé l'un et l'autre dans vos travaux de manière très différente malgré tout, et on va essayer de la traverser. Mais d'abord l'un et l'autre, et peut-être d'abord Céline Spector, est-ce que vous partagez cette idée que je proposais, que la question des contre-pouvoirs finalement est au cœur de la politique, n'est pas finalement une idée seconde qui viendrait après l'expérience du pouvoir, mais que justement nous faisons simultanément peut-être l'expérience du pouvoir et du fait d'y résister, et que c'est cela l'expérience politique, Céline Spector. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette hypothèse, cette proposition ?
Disons qu'en tout cas, les deux concepts sont indissociables. C'est-à-dire que si on considère le pouvoir, sans forcément privilégier le pouvoir politique pour le moment, comme la capacité de faire à d'autres ce qu'ils ne feraient pas spontanément, hein, il s'agit alors d'agir sur des volontés qui sont libres d'obéir ou de résister. Dans ce cas, le risque d'abus est constitutif. Et donc là où il y a pouvoir, il doit y avoir contre-pouvoir pour éviter que le pouvoir abuse, on pourrait dire, de sa position, surtout s'il y a position dominante, c'est-à-dire asymétrie entre celui qui gouverne et celui qui est gouverné, ou celui qui exerce un pouvoir, quel qu'il soit, culturel, économique, social, et celui qui sur qui ce pouvoir est exercé. Donc je pense que pour éviter effectivement les abus de pouvoir qui sont inhérents à l'exercice même du pouvoir, pour éviter toutes les formes de tyrannie dans la vie sociale, il est indispensable en effet qu'il existe des contre-pouvoirs. Donc je dirais plutôt que les deux notions apparaissent de manière simultanée.
De manière simultanée, mais peut-être qu'il y a l'idée de pouvoir et celle de résistance dès le départ, mais l'institution des contre-pouvoirs là, au cœur du politique, dans la démocratie, leur fragilité ou leur force, leur crise aujourd'hui, ça c'est un phénomène historique quand même. Enfin, il y a l'expérience primitive sans doute du pouvoir et de la liberté devient un principe institutionnel, devient la garantie de nos libertés dans la vie sociale, Céline Spector, progressivement dans une histoire que vous avez d'ailleurs beaucoup étudiée.
Oui, alors si on aborde les choses de manière un peu généalogique, en effet, dans l'histoire de la philosophie elle-même, on a un moment où le thème, disons, des contre-pouvoirs, qui c'est pas encore tout à fait ce nom-là qui est utilisé. Hein, ce
oui, vous nous direz justement avec Jean-Claude.
Voilà, on peut utiliser par exemple, si on pense à la philosophie de Montesquieu, le terme de pouvoirs intermédiaires, qui sont en réalité des contre-pouvoirs. Disons que la thématique apparaît plutôt dans une situation qui est celle de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une situation qui n'est pas celle de la démocratie, mais plutôt d'une certaine forme de monarchie qui risquerait de tendre au despotisme ou à la tyrannie, précisément parce que tous les pouvoirs sont concentrés ou risquent de l'être en une seule personne. Donc le pouvoir de légiférer, le pouvoir d'exécuter, voire le pouvoir judiciaire, pourrait, hein, disons, tendanciellement se cumuler en une seule personne, voire en un seul corps. Et c'est là un risque terrible pour la liberté, puisque effectivement la personne qui fait la loi pourrait aussi s'en prendre, disons, à ses opposants politiques pour les cibler nommément.
Et donc, peu à peu se construit cette idée, quoi, de cette idée d'une séparation des pouvoirs, comme dirait aussi Montesquieu, sur lequel vous avez beaucoup travaillé.
Ben disons que, en tout cas, ce qui est indispensable pour préserver la liberté, c'est en effet que les pouvoirs soient distribués. Alors, on utilise plutôt le terme de distribution des pouvoirs. Montesquieu analyse la constitution d'Angleterre pour analyser le modèle de cette distribution. L'idée, hein, c'est que tout serait perdu, c'est-à-dire la liberté fondamentale, qui est la fin suprême de l'État, en tout cas dans l'Angleterre telle que Montesquieu l'aperçoit, après la Révolution glorieuse. Disons, tout serait perdu, la liberté serait perdue si un seul homme ou un seul corps pouvait cumuler les pouvoirs. Parce que dans ce cas, effectivement, la puissance pourrait s'exercer sans rencontrer, d'opposition, de limite, de résistance. Or, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. C'est une expérience éternelle. Hein. Le pouvoir ne s'arrête que s'il rencontre des limites. Et ça, je crois que c'est le point fondamental. Il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut des institutions, il faut que les ambitions s'entre-empêchent, etc.
C'est ce dont nous allons parler tout au long de cette émission, aussi pour voir comment ça se distribue ou se distribue fragilement, se distribue peut-être plus ou moins bien aujourd'hui. Jean-Claude Monod, vous-même, qui avez aussi travaillé sous un autre angle, à la fois sur l'histoire longue du gouvernement, de la politique et du pouvoir, notamment dans un de vos derniers livres que je citerai bientôt, et sur cette expérience contemporaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il y a à la fois une expérience primitive et puis une histoire justement de l'institution progressive des contre-pouvoirs au cœur du politique, Jean-Claude Monod?
Oui, certainement. C'est-à-dire, si on prend le terme de contre-pouvoir au sens strict et classique, disons, effectivement, c'est une expérience historique, alors qu'on peut faire remonter plus ou moins loin, effectivement, dans l'Ancien Régime. Il y a aussi des formes de conseil du pouvoir, de conseil du roi même, qui lui rappelle qu'il a certaines limites, ou ce qu'on appelait d'ailleurs certaines brides. Il y a un conseiller comme ça au XVe siècle qui parle des trois grandes brides du pouvoir royal, que sont la religion, la justice, et ce qu'il appelle d'ailleurs la police, qui est un peu un
ordre social. Ah, donc même la religion
est une qui ne peut pas.
Oui. Même la religion est une bride.
La religion est une... La religion est une bride, une sorte de justice qu'il faut respecter, et puis quelque chose qui résiste un petit peu à la volonté politique et qui tient à des usages ancestraux. Et puis ensuite, effectivement, c'est quelque chose qui se construit avec le libéralisme, avec les Lumières, et qui là vraiment conçoit l'idée de contre-pouvoir, cette idée qu'a rappelé Céline Spector et dont évidemment Montesquieu a donné une formulation particulièrement aboutie. Et donc ça c'est un des pôles, je pense, c'est l'expérience institutionnelle, juridique des contre-pouvoirs, l'idée que le pouvoir est toujours susceptible d'excès, d'abus, de despotisme, de tyrannie, et qu'il faut donc le limiter. Et puis il y a quelque chose peut-être qui est ce à quoi vous faisiez allusion sur une expérience peut-être primordiale, qui est qu'effectivement un pouvoir s'exerce sur des individus qui auront une certaine rétivité face à cet exercice, et qui donc essayeront soit d'y opposer ce que Foucault appelle des contre-conduites, soit de ruser avec lui, soit d'y échapper. Et donc là, on a tout un champ qui intéresse peut-être d'abord les historiens, qui se dépose dans la philosophie plutôt chez des auteurs qui sont à la limite de l'histoire, comme Machiavel, et qui pensent une espèce de rivalité, d'une histoire de conflit entre les gouvernants et les gouvernés, qui est une sorte de trame de fond de l'histoire. Et là, on ne parle pas classiquement de contre-pouvoir, mais évidemment dans une manifestation, dans des expériences de révolte, on peut dire qu'on a affaire aussi à des contre-pouvoirs populaires. Donc je pense qu'on a effectivement différents plans d'expérience et différents modes aussi d'expression, voire d'institutionnalisation des contre-pouvoirs. Et dont on vit aujourd'hui, d'ailleurs, parfois là, soit effectivement un certain délitement, soit une réaffirmation. Je pense qu'il n'y a pas une histoire linéaire des contre-pouvoirs à ce titre.
Oui, vous dites l'un et l'autre que la notion de contre-pouvoir est récente peut-être, et on y reviendra, mais c'est vrai qu'elle recoupe plusieurs expériences. Il y a son institutionnalisation avec des pouvoirs, et aujourd'hui ben, on pense par exemple au pouvoir juridique, au pouvoir judiciaire, au pouvoir exécutif, mais aussi au pouvoir de la presse. Mais finalement, même ces pouvoirs spontanés de résistance, ils supposent des institutions. Jean-Claude Monod, même les manifestations dans les rues de Paris, par exemple, elles sont protégées par des institutions. Et donc, finalement, il y a une intrication des différents sens des contre-pouvoirs que vous évoquez entre cette résistance spontanée, individuelle ou collective, et puis les cadres juridiques qui peuvent les permettre ou au contraire les empêcher finalement. Donc, et il y a toujours un jeu, une tension entre les deux, entre aussi le social et le politique, Jean-Claude Monod.
Oui, certainement. Je pense que l'histoire de ces révoltes, de l'exercice aussi de la critique, publique, l'histoire des protestations, des résistances, elle s'est pour une part déposée aussi à son tour dans des droits acquis, plus ou moins acquis d'ailleurs, et reconnus parfois, donc eux-mêmes institutionnalisés, effectivement, le droit de manifester, le droit de critiquer librement les institutions, disons la liberté d'expression. On peut dire, voilà, ce sont autant de droits qui se sont exercés peut-être d'abord sur un mode, qui ont été pris en quelque sorte, qui ont été conquis, et ensuite qui ont fait l'objet d'institutionnalisation, dont on pourrait à chaque fois reconstituer l'histoire. Et sans doute, ça nous fait mesurer qu'il y a effectivement une part de l'histoire des contre-pouvoirs qui est une histoire juridique et une histoire peut-être aussi d'en haut, avec des réformes, des institutionnalisations diverses. Et puis il y a quelque chose qui, je pense, participe de la relance aussi peut-être de l'invention démocratique ou des mouvements sociaux, et qui, au fond, conquiert de nouveaux droits et éventuellement de nouveaux espaces, de nouveaux contre-pouvoirs. On peut dire d'ailleurs aussi que les conditions techniques, technologiques, etc., invitent à redéfinir ces espaces sans cesse, au fond, avec l'apparition de la presse dans le passé, avec l'apparition d'Internet aujourd'hui. Ouais. Voilà, il y a des formes de contre-pouvoir qui se développent de manière un peu anarchique et qui ensuite soit sont régulées, soit sont institutionnalisées. Mais c'est une histoire effectivement complexe et avec des va-et-vient entre l'institution et peut-être des formes naissantes un peu anarchiques de contre-pouvoirs.
Oui, on reviendra sur ces risques, y compris dans les contre-pouvoirs qui eux-mêmes peuvent devenir des pouvoirs presque absolus, auxquels on doit réinventer des contre-pouvoirs pour s'opposer aux contre-pouvoirs. Aujourd'hui, on le voit avec les réseaux sociaux, le contre-pouvoir parfois plus puissant, contrairement à ce qu'il dit lui-même, que le pouvoir auquel il s'oppose, et quelles sont nos boussoles là-dedans. Je voudrais revenir quand même avec vous deux, qui enseignez et travaillez aussi l'histoire de la philosophie politique, sur le politique, parce que à un moment quand même, voilà, dans nos vies, il y a du pouvoir et du contre-pouvoir entre des parents et des enfants, entre les hommes et les femmes, dans le domaine de l'économie. À un moment donné, je pense quand même que l'institution politique du pouvoir et du contre-pouvoir est le cœur du problème. Et donc finalement, on ne peut pas éviter ce carrefour, la distribution du pouvoir suprême au cœur d'une société politique. Céline Spector, est-ce que c'est cette question qui s'isole peu à peu? Cette question du politique, est-ce que justement, quand vous parliez de la monarchie, cette prise de conscience de ses limites, c'est une prise de conscience de la nécessité du politique, en fait, au cœur du pouvoir?
Oui, alors je crois qu'il faut repartir de l'idée d'art de gouverner, c'est-à-dire que...
Là, vous serez d'accord avec Jean-Claude Monod, parce voilà, que là, il vient d'écrire le titre du livre que j'allais citer, c'est l'art de ne pas être trop gouverné. Donc,
mais effectivement, je crois qu'il faut les mettre en rapport, mais il y a d'abord un art de gouverner, et il y a d'abord, par exemple, des théories de la raison d'État, et un certain usage des moyens, des leviers de l'État, à la fois, disons, qui peuvent relever de la violence, mais aussi, tout simplement, de la ruse, de la manipulation, des jeux d'alliance, etc. Et je crois que le thème des contre-pouvoirs, il se théorise d'abord contre ce qui a été perçu comme le machiavélisme ordinaire, Richelieu, etc., c'est-à-dire finalement un certain usage du pouvoir politique qui s'opère dans le secret, les arcana imperii, c'est-à-dire finalement tout le contraire de la publicité. Et le mouvement des Lumières, pour autant qu'on puisse en parler de manière générale, c'est toujours beaucoup plus compliqué, mais en tout cas le mouvement des Lumières a contribué à essayer de lutter contre ces processus de raison d'État, contre voilà, disons, oui, l'usage de l'appareil d'État pour opprimer le peuple et aussi pour le manipuler.
C'est quand il y a un pouvoir avec un grand P, finalement, qui se constitue au cœur du social, qu'apparaît cette idée de lui résister par une forme d'une façon organisée, d'une certaine façon.
Mais disons qu'il y a toujours eu, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Claude Monod, il y a toujours eu quand même des corps. Mmh. C'est-à-dire que voilà, dans l'État, c'est pas depuis que l'État moderne existe, c'est pas le face-à-face tout simple entre l'individu, qu'il soit noble ou roturier ou paysan, et puis le monarque. Hein. Donc il y a toujours eu toute une pyramide d'institutions, et certaines ont presque toujours prétendu justement exercer un rôle régulateur. Donc Jean-Claude Monod évoquait le Conseil du Roi, mais précisément au moment où écrit Montesquieu, le Conseil du Roi n'est plus considéré comme un contre-pouvoir, parce qu'il est considéré comme, entre guillemets, à la botte du monarque. Ça ne suffit plus, et donc il faut concevoir le rôle des parlements, il faut concevoir le rôle des villes, il faut concevoir toute une série d'institutions qu'on pourrait dire secondaires, les corps intermédiaires, qui permettront de jouer ce rôle d'abord de dépôt des lois fondamentales, ce que nous appellerions les lois constitutionnelles, et vérifier notamment que précisément le pouvoir politique ne s'exerce pas de manière arbitraire et abusive, c'est-à-dire qu'il s'exerce conformément aux lois fondamentales. Ça, c'est la première exigence. Hein, le respect des contre-pouvoirs, c'est vérifier en effet la légalité de l'exercice du pouvoir. Après, évidemment, il y a toutes sortes d'autres modalités. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressée chez Montesquieu, c'est l'intérêt pour le pouvoir économique, hein, puisque il y a une réflexion sur ce rôle de ce qu'on appelait à l'époque le commerce, et la déterritorialisation qu'il implique, c'est-à-dire le fait que les richesses peuvent quitter le royaume, ce qui, en un sens, leur permet d'échapper à la prise de la souveraineté, et ce qui crée, en un sens, alors peut-être pas tout à fait un contre-pouvoir au sens des pouvoirs intermédiaires, mais quand même quelque chose comme un danger pour une politique qui serait machiavélique ou machiavélienne, puisque si, comme disait Montesquieu, il y a des grands coups d'État, il emprunte l'expression à Naudet, si le monarque fait des grands coups d'État, par exemple s'il décide d'une dévaluation massive unilatérale, eh bien les richesses vont fuir le royaume, et le monarque se trouvera en quelque sorte en difficulté. Donc le génie de Montesquieu, c'est d'avoir découvert ces processus involontaires, ces effets involontaires qui ne relèvent pas seulement, on pourrait dire, des corps politiques organisés de la société civile, mais aussi des activités ordinaires, le commerce notamment.
Oui, on reviendra justement sur le fait que le pouvoir n'est pas seulement politique, il peut être économique, on reviendra aussi sur le pouvoir peut-être médical, toutes les formes de pouvoir. Jean-Claude Monod, vous aussi, vous envisagez l'idée, on voit bien que Montesquieu n'a pas inventé seulement la séparation ou la distribution des pouvoirs politique, mais il a repéré aussi les autres formes de pouvoir. Est-ce que pour vous, finalement, vous dites l'art de ne pas être trop gouverné, peut-être pour éviter aussi la question exclusivement politique, on peut être gouverné aussi par des régimes économiques, des régimes de savoir, toutes sortes de pouvoirs qu'il ne faut peut-être pas trop vite réduire au cœur de l'État, même si la question de la démocratie, sur laquelle on reviendra aussi, passe quand même par une spécificité du pouvoir politique. Est-ce que pour vous aussi, il y a ce jeu entre différents régimes de pouvoir, Jean-Claude Monod ?
Oui, tout à fait. Enfin, moi, je tiens pour fondamental l'effort qui a été fait pour limiter le pouvoir d'État. Je pense que ça a été un processus très important, à la fois philosophiquement parlant, politiquement, juridiquement parlant, et qui a permis de construire... Alors, est-ce qu'il faut dire la démocratie, la République,
on va y revenir.
Ou la forme libérale de la démocratie? Parce que là, évidemment, il y a différents plans à envisager, et on peut dire que l'effort d'imposer des limites à l'État, on le caractérise plutôt comme relevant du libéralisme. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui a été beaucoup débattu au moment de la Révolution française, c'est-à-dire une fois qu'on considère que le pouvoir est plutôt le pouvoir du peuple, comment est-ce qu'on va penser la limitation du pouvoir? Enfin, est-ce qu'il faut soumettre le pouvoir du peuple à un contrôle? Une fois qu'on a posé que la volonté générale était le principe du pouvoir, du nouveau pouvoir. Et donc il y avait tous ces débats qui montraient que d'un côté, on se disait qu'effectivement, cette nouvelle forme moderne de pouvoir devait s'auto-limiter peut-être. D'ailleurs, c'est le fameux article 16 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs n'est pas déterminée n'a pas de constitution, n'a point de constitution. Donc on identifie la constitution à une certaine séparation des pouvoirs, et en même temps cette séparation était difficile à concevoir dans le cadre d'une idée de la démocratie ou de la république comme expression directe de la volonté du peuple. Et on sait que Sieyès, par exemple, a beaucoup justement réfléchi pour trouver des formules qui soient acceptées, qui n'ont d'ailleurs pas été dans un premier temps, de contrôle, de constitutionnalité, etc. Donc tout cet effort d'institutionnalisation, de contrôle, ou de référence aussi bien sûr aux droits fondamentaux, aux droits de l'homme, moi je le tiens pour tout à fait important, et je pense que ça a été un grand effort justement de la pensée et de l'action politique qui était effectivement dirigée essentiellement là vers le pouvoir d'État et contre les excès du pouvoir d'État, du pouvoir royal bien sûr, mais ensuite éventuellement transposable à d'autres formes d'État. Et en un sens au XXe siècle, tout ça a été réactivé face à l'État totalitaire aussi, hein. Il y a eu une réaffirmation de l'État de droit face à l'État totalitaire, et qui était l'État de droit était justement un État qui s'autolimite et où effectivement il y a une distribution, il y a une possibilité de critique, possibilité de recours, possibilité de manifestation, etc. Maintenant, effectivement, il y a une autre dimension qui est celle du rapport à d'autres formes de pouvoir, y compris le pouvoir économique. Et on pourrait y revenir peut-être tout à l'heure.
On va y revenir dans un instant, Jean-Claude Monod. Vous venez de balayer toute cette question centrale. Au fond, on a l'impression que les pouvoirs, c'est le problème, un pouvoir qui domine l'autre. Et donc, on a envie d'un pouvoir unique, de tout le monde sur tout le monde, un pouvoir, voilà. Mais ça devient aussi un risque de domination générale. On a dans cette idée qu'il faut résister au pouvoir en lui opposant un autre pouvoir sans que l'un puisse dominer l'autre. C'est l'antinomie des contre-pouvoirs. On y revient dans un instant. Vous nous avez proposé plutôt quelque chose qui va crucifier notre esprit, Jean-Claude Monod.
Was it a huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance
à présent,
Frédéric Borms.
À présent, ce soir, les contre-pouvoirs au cœur de la bataille, au cœur de toutes les batailles démocratiques d'aujourd'hui aussi. Nous en parlons avec Céline Spector et Jean-Claude Monod. Jean-Claude Monod, vous nous proposez Sixto Rodriguez, cette musique retrouvée, Crucify Your Mind. Est-ce que au cœur du contemporain, justement, il y a toute une forme culturelle de résistance au pouvoir, tout un ensemble de pratiques sociales qui résistent au pouvoir autant que les institutions politiques? Et au cœur du présent, nous allons y venir aussi, il y a cette idée que ce régime fragile des pouvoirs est peut-être à défendre, à relancer. Comment est-ce que vous situez le problème aujourd'hui des contre-pouvoirs dans cet espace social contemporain, Jean-Claude Monod?
J'y viens dans un instant, mais vous disiez effectivement que les artistes ou les chanteurs ou... Voilà, peut-être les intellectuels contribuent aussi à une culture, une contre-culture, des contre-pouvoirs. Et c'est amusant parce que Sixto Rodriguez, qui est un chanteur qui a été complètement inconnu aux États-Unis, une de ses chansons est devenue très populaire en Afrique du Sud parce que les étudiants, les gens avaient l'impression que c'était un message codé contre le racisme sous le régime de l'apartheid, alors que c'était pas d'ailleurs, je crois, le contenu de la chanson initiale. Mais voilà, enfin, il y a effectivement des messages artistiques ou des formes qui peuvent devenir des mots d'ordre ou des façons de contester plus ou moins secrètement. Et évidemment, il y a des grandes figures d'écrivains qui se sont dressés contre des pouvoirs. Et je crois que c'est une figure importante aussi toujours à rappeler. Maintenant, oui, alors la situation actuelle, je pense qu'on observe un certain recul ou une certaine fragilisation de certains contre-pouvoirs, ce qui ne veut pas dire que d'autres contre-pouvoirs ne sont pas en train d'émerger et de s'affirmer sur un mode incertain. Je pense que la fragilisation, on l'observe un petit peu partout en Europe et aux États-Unis depuis...
Qu'est-ce qu'il explique, Jean-Claude Monod, d'après vous ? Parce qu'on va y revenir aussi avec Céline Spector. Il y a donc cette histoire très longue d'attachement au contre-pouvoir qui fait qu'on résiste à la domination, au pouvoir absolu. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir tout à coup, croire que c'est acquis, avoir une forme de désaffection pour les contre-pouvoirs, finalement, et devoir assister à... devoir justement les relancer aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'on y est peut-être moins attaché qu'au moment où ils ont été inventés, par exemple dans les grandes révolutions du 18e siècle ?
Oh, le fait qu'on y est moins attaché, c'est peut-être que justement on a un peu oublié les combats qui ont présidé à leur naissance et qui a un peu, disons, une habitude et peut-être une certaine négligence de la part des citoyens que nous sommes, qui sommes aussi des individus qui vacquons à nos occupations et qui ne sommes pas forcément extrêmement vigilants ou préoccupés sur la question des libertés publiques. Bon, mais sinon, il y a évidemment des facteurs très importants qui ont été les expériences terroristes, donc les législations antiterroristes et les états d'exception juridiques qui ont suivi. Il y a bien sûr aujourd'hui toutes sortes de dangers ou d'impressions de dangers parfois, et parfois de dangers réels bien sûr, mais qui ont mis peut-être la sécurité au-dessus des questions de liberté et de contre-pouvoir, et qui font que parfois les gouvernants réagissent de manière extrêmement rapide et pour montrer qu'ils réagissent en prenant des dispositions législatives qui, de fait, réduisent soit, par exemple, la liberté de manifester, soit éventuellement la liberté académique, la liberté de critique. Bon, et on voit dans différents États, et même, je pense, ces dernières semaines en France, on en aurait éventuellement des illustrations, le fait que des peurs dont les motifs sont très compréhensibles, mais peuvent conduire à des décisions qui vont, par exemple, renforcer excessivement les prérogatives de la police au détriment des droits des citoyens. Des choses comme ça.
Oui, peut-être.
Alors,
parce
qu'il faudra
qu'on a...
évidemment entrer dans le détail, mais je pense que la période des états d'exception, qu'on connaît aussi bien sûr sur le plan sanitaire, n'est pas favorable au plein exercice des contre-pouvoirs.
Oui, vous aviez écrit un livre sur l'état d'urgence et l'état d'exception. On a l'impression, ça nous ramène au problème du pouvoir lui-même, Céline Spector d'ailleurs, parce que si on a besoin de pouvoir, c'est pour résister à des dangers, et finalement, c'est la première tâche du politique, et on a l'impression parfois que c'est un luxe, le contre-pouvoir, de préserver les libertés, et donc on nous dit, on a besoin du pouvoir contre la pandémie, contre le terrorisme, et vous demandez des contre-pouvoirs, mais on n'en a pas le temps. Aujourd'hui, on est soumis à une urgence et le pouvoir vient primer sur le contre-pouvoir. Est-ce que vous faites le même diagnostic, Céline Spector, que c'est toujours au nom d'un danger extérieur et du besoin d'un pouvoir absolu, d'un pouvoir fort, d'une résistance à un autre danger que les crises intérieures, et donc on renonce pour cela à la revendication des libertés, des contre-pouvoirs, Céline Spector ?
Je pense que ce diagnostic est très juste, c'est-à-dire que les théories de la souveraineté, comme on les appelle, depuis Baudin et Hobbes, se sont instituées au moment des guerres de religion et des guerres civiles. C'est-à-dire que le raisonnement, si on veut le résumer en une phrase, consistait à dire, si on veut éviter l'anarchie, les révoltes, les séditions, les révolutions permanentes et leur caractère sanglant et barbare, il faut instaurer, instituer un pouvoir absolu, donc au-dessus des lois, mmh. qui soit doté de toute une série de caractéristiques, l'unité, l'indivisibilité, la perpétuité, mmh. l'absoluité, c'est-à-dire précisément l'absence de contre-pouvoir. Or, c'est cette théorie-là qui, en un sens, est passée, entre guillemets, chez Rousseau, dans une théorie républicaine de la souveraineté, puis ensuite, par exemple, dans le cas de la République française, précisément au fondement de notre République, hein, Jean-Claude Monod citait le principe qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale, donc la souveraineté appartient à la nation. Et
ça, c'est la priorité, finalement, c'est la priorité pour préserver l'unité sociale contre la division de tous les pouvoirs les uns contre les autres.
Absolument, préserver de tous les dangers, c'est-à-dire la sécurité extérieure, les dangers intérieurs, donc prévenir toutes les pathologies qui peuvent affecter l'État et le menace de dissolution et de ruine. Donc pour éviter la corruption et les risques de dissolution, il faut une souveraineté absolue, donc un cumul des pouvoirs. Or, précisément, tout le travail, au XIXe siècle, un post-révolutionnaire, a consisté à dire que c'est pas parce que le peuple est souverain qu'il faut, s'en remettre à lui et qu'il faut abandonner, la nécessité des contre-pouvoirs. Et c'est vrai qu'il y a toute cette tradition, alors on l'appelle libérale, effectivement, hein, on trouve ça, par exemple, chez Constant et Tocqueville, une défense très fervente de la liberté de la presse. Pourquoi faut-il défendre la liberté de la presse contre les dispositifs de censure, contre les dispositifs d'autorisation préalable? Eh bien, parce que, précisément, seule la presse permet de lutter contre les abus de pouvoir, contre l'arbitraire, d'éduquer le peuple, de favoriser la critique, l'émergence d'une opinion publique éclairée. Et donc, la garantie des droits fondamentaux de l'individu passe par là. Donc, je crois qu'on a un problème, si l'on peut penser que la démocratie peut faire l'économie des contre-pouvoirs, c'est tout à fait faux. Oui. On peut pas s'en remettre à la souveraineté absolue du peuple et ne plus envisager les garde-fous. Alors, pour répondre à votre question sur la temporalité, je crois que vous avez raison. Il y a toujours cette idée que dans l'urgence, on peut faire l'économie des procédures, des formalités, le passage par les garde-fous, tout ça prend du temps. Et Montesquieu le dit en toutes lettres, les formalités, c'est le prix à payer pour la liberté. Donc il ne faut pas qu'elles soient excessives, sans quoi on ne rend jamais justice, par exemple. Mais il faut des formalités, et c'est vrai que c'est le prix de la liberté.
Alors je vais vous donner un exemple, Céline Spector, vous qui travaillez sur l'équilibre des pouvoirs dans les constitutions aussi. En ce moment, on a eu une élection aux États-Unis il y a un peu plus de déjà 5 semaines, et c'est toujours pas fini, les formalités, finalement, ça prend du temps. Est-ce que vous y voyez une garantie, là aussi, un contre-pouvoir dans les précisions juridiques contre les volontés, les risques d'abus? Est-ce que vous y voyez une force ou une fragilisation? C'est un exemple que Montesquieu aurait sans doute beaucoup, beaucoup aimé travailler, cette question des checks and balances aux États-Unis. On dit souvent que les États-Unis sont plus inspirés de Montesquieu même que la France. Vous le disiez en citant Rousseau. Oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ces contre-pouvoirs sont à la fois en action les uns contre les autres et peut-être fragiles?
Alors, il me semble que, c'est la lecture que je fais, elle est peut-être discutable. Il me semble que les contre-pouvoirs ont finalement plutôt bien résisté. C'est-à-dire que on avait effectivement de la part de l'ancien président des États-Unis la volonté.
Le futur ancien président.
Contourner, le futur ancien, si vous voulez, que nous ne nommerons pas. De contourner tous les dispositifs de checks and balances qui avaient été conçus par les pères fondateurs lors du moment constitutionnel 1787, en s'inspirant explicitement de Montesquieu. Donc Madison, Hamilton, dans The Federalist Papers, reprennent le dispositif de Montesquieu, l'adaptent à la situation américaine, celle d'une république moderne, où on n'a plus besoin, si on veut être bicaméral, pour le dire vite, dans les checks and balances, d'une chambre des lords, mais plutôt d'un Sénat où sont représentés les États. Donc le système politique américain en hérite aujourd'hui encore. Mais alors, s'il s'agit de faire de l'analyse politique, moi, il me semble qu'il a quand même pas si mal résisté. On nous annonçait des guerres civiles, on nous annonçait que les réseaux sociaux étaient en flammes, que les suprématistes allaient faire la guerre aux dénommés antifascistes. Et finalement, on s'est aperçu que la transition était relativement pacifique. Pourquoi? Précisément parce que les procédures judiciaires, l'état de droit,
les formalités
fonctionnées. Et il y a cette particularité incroyable aux États-Unis, c'est la presse qui annonce les résultats des élections et pas le ministère de l'Intérieur comme chez nous.
Et oui. Quel est le plus important des pouvoirs?
Ce moment extraordinaire où Fox News, qu'on avait donc dit effectivement l'artisan principal du succès de Trump, eh bien, a annoncé la défaite de Trump dans un état clé. Donc, on est quand même dans un pays où les médias, malgré tout, ont joué un rôle fondamental. Donc, je distingue bien sûr des réseaux sociaux et de toutes les campagnes diffamatoires qui ont lieu sur Internet, mais où les médias, plus ou moins classiques, ont joué un rôle. Donc, je ne suis pas finalement si pessimiste sur la démocratie américaine. J'en dis pas du tout autant, bien sûr, de la Chine, de la situation à Hong Kong ou de la Turquie. Donc, je crois qu'il faut vraiment discriminer les cas.
Bien sûr, on a l'impression qu'il y a des différences de degrés dans les États selon, justement, l'équilibre des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Jean-Claude Moineau, vous avez, avant L'art de ne pas être trop gouverné, qui est paru en 2019, vous aviez écrit aussi un livre sur qu'est-ce qu'un chef en démocratie. On a l'impression que vous êtes quand même un peu fasciné par ces dérives du pouvoir dans les sociétés contemporaines, dans les démocraties, en lisant aussi des auteurs comme Michel Foucault. Aux États-Unis, pour vous, c'était aussi une dérive du chef, justement, une fascination. Il y a une fascination pour le pouvoir contre laquelle on a toujours du mal à résister, finalement. Qu'est-ce qui, selon vous, était à l'œuvre là, avant qu'on revienne à la France, aussi aux libertés académiques, aux libertés de la presse et à l'équilibre des pouvoirs en France? Là aussi, est-ce que vous avez vu un cas d'école pour vous dans votre réflexion sur la démocratie?
Oui, certainement, parce que, bien sûr, bon, il y a des effets de fascination du pouvoir et voilà. Il y a une dimension du rapport au pouvoir qui ne relève pas de la rationalité. Ça, nous citons beaucoup les philosophes et c'est bien normal. Mais il y a une dimension qui relève évidemment de l'affect, qui relève de la passion et parfois des effets de fascination. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi des peuples entiers ont l'air de se passionner pour et de suivre tel leader qui nous paraît tout à fait médiocre, mais il y a évidemment beaucoup de choses à analyser de ce point de vue-là. Et alors le cas de Donald Trump était évidemment très très intéressant, mais pour moi justement j'avais un petit peu essayé de poser des critères dans ce livre sur le chef en démocratie.
C'était d'ailleurs un livre avant Trump, c'était un livre avant
le chef
Trump,
dans le... C'était un livre d'avant Trump, tout à fait, mais je dirais qu'un des critères qui fait que le chef reste dans la démocratie, c'est qu'il ne s'identifie pas lui-même à la loi, mais qu'il sait qu'il est sous la loi. Alors évidemment, Trump était sur une ligne de crête ici, puisqu'on a l'impression qu'il refusait, et il refuse plus ou moins toujours, la loi des urnes, disons la loi de l'alternance, il refuse d'une certaine façon d'admettre son échec, mais ce que je trouve aussi rassurant, comme Céline Spector, c'est que eh bien cette loi s'impose de toute façon, enfin, et s'est imposée contre lui, la structure fédérale et les gouverneurs des différents États ont validé les résultats, ou les secrétaires généraux ont validé les résultats, la presse a finalement joué son rôle, donc effectivement, ce pays dont on pouvait penser qu'il était très très mis à mal par une forme de leadership toxique, disons, a tout de même réussi, enfin, on croise les doigts bien sûr, mais à ménager cette transition et à faire qu'un leader qui était, je pense, souvent tenté d'outrepasser les limites qui sont prévues pour le pouvoir présidentiel et qui sont déjà très importantes, hein, évidemment, dans le cadre américain, n'a pas pu tout de même s'auto perpétuer, ce qui est une grande différence avec les leaders d'États autoritaires ou totalitaires qui se présentent comme étant eux-mêmes la source de la loi, qui
sont au pouvoir parfois depuis des années et des années, et qui finalement
des décennies, voilà.
Oui, quand vous dites on peut le souhaiter que le président change, c'est pas une opinion politique, c'est plutôt un respect des formes, justement un respect des principes, ces principes qui protègent tout le monde finalement, qui protègent les deux camps, qui ne protègent pas un camp plutôt qu'un autre, et que tout le monde devrait plutôt respecter pour éviter la guerre civile finalement, Jean-Claude Moineau.
Oui, bien sûr, je crois que l'enjeu, c'était aussi le respect de la règle du jeu, qui est évidemment fondamentale dans une démocratie, à savoir le fait qu'on peut congédier pacifiquement les gouvernants, et ce qui est quelque chose qui a été là aussi conquis, disons, dans l'histoire de la démocratie comme régime distribuant les pouvoirs. Il y a bien sûr cette idée que ce n'est pas un dirigeant qui, disons, possède le pouvoir, mais que celui-ci est un lieu qu'on peut occuper en suivant une compétition, etc. Peut-être un lieu vide, comme disait Claude Lefort, mais en tout cas quelque chose qui n'est pas la propriété d'un groupe ou d'un individu. Et de ce point de vue-là, bien sûr, il y a eu un travail constitutionnel, un travail institutionnel, mais il y a aussi, bien sûr, un état d'esprit à maintenir pour faire en sorte que des individus qui seraient tentés d'outrepasser ou de violer ces règles soient rappelés à l'ordre et voilà, et s'y tiennent. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a toujours un peu cette dimension de mobilisation des citoyens qui peut être requise.
Justement, nous allons venir aujourd'hui à la nécessité d'équilibrer les contre-pouvoirs et les pouvoirs, non seulement de manière institutionnelle, mais dans la vie sociale, de plus d'une manière. Mais nous allons d'abord passer par un deuxième moment musical.
Culture.
À présent,
Frédéric Worms.
À présent, ce soir, les contre-pouvoirs au cœur de la bataille, au cœur de toutes les batailles. Les batailles pour la liberté, comme dans cette musique de Handel, la musique qui exprime aussi les batailles humaines. Les batailles aussi, aujourd'hui, les batailles sociales qui ne sont pas seulement institutionnelles. Nous avons beaucoup parlé avec Céline Spector et Jean-Claude Monod, qui sont nos interlocuteurs ce soir, des contre-pouvoirs institutionnels. Mais le pouvoir et les contre-pouvoirs ne sont pas seulement politiques au sens étroit du terme. Il y a aussi des pouvoirs économiques contre lesquels il faut inventer d'autres formes de résistance, et parfois c'est le politique qui est un contre-pouvoir face à l'économie. Il y a la nécessité des contre-pouvoirs de la presse, de l'éducation, qui peuvent eux-mêmes devenir des pouvoirs. Donc il y a tout un système des pouvoirs. Céline Spector, vous qui venez de nous proposer cette musique de Handel, comment est-ce que vous voyez, vous disiez que vous vous y intéressiez beaucoup aussi dans votre travail de philosophie politique, comment est-ce que vous voyez cette résistance aux autres pouvoirs que le politique proprement dit, ces pouvoirs qui sont aujourd'hui très dominants, par exemple le pouvoir économique, Céline Spector?
Oui, je crois qu'il y a un retournement qui est tout à fait spectaculaire. Hein. Si on se replace par rapport à la période de Handel, l'Ancien Régime, et en particulier ces monarchies absolues où l'économie pouvait constituer finalement, on peut dire, hein, une forme de contre-pouvoir et une manière de discipliner ou d'apprivoiser le prince. Le
pouvoir rationnel aussi du commerce contre l'arbitraire.
Un pouvoir qui peut soit être un pouvoir rationnel, soit en tout cas un pouvoir qui serait celui donc d'échapper à la prise de la souveraineté. Je crois qu'on a assisté à un renversement spectaculaire, c'est-à-dire que cette déterritorialisation qui était émancipatrice est devenue un véritable danger pour la démocratie. Et effectivement, que les capitaux, comme disait Montesquieu, puissent fuir d'une seconde à l'autre, passer d'un pays à l'autre, et maintenant, d'une place financière à l'autre aussi rapidement, que les flux soient quasiment instantanés, c'est un vrai risque pour le pouvoir politique, pour des raisons que tout le monde connaît. fait, c'est-à-dire une sorte de concurrence fiscale qui a lieu notamment même au sein de l'Union européenne, un dumping fiscal qui peut avoir des conséquences tragiques, puisque cela conduit effectivement à un sous-financement éventuel des services publics. Donc, si vous voulez, l'économie est devenue potentiellement un pouvoir qui peut faire la loi aux politiques. Et la question est de savoir comment on peut démocratiser l'économie. C'est la nouvelle grande question, puisque on parle parfois de la dictature des marchés, de la dictature de la finance. Enfin, en tout cas, il est certain que voilà, les États doivent se financer, ils doivent se financer sur les marchés, et de ce fait, ils doivent en effet
se soumettre
à un certain type de politique et effectivement ne pas effrayer les marchés, comme on dit, c'est-à-dire effectivement qu'ils sont ils sont aux prises avec quelque chose qui leur échappe, qui ne le contrôlent pas et qui leur dicte la loi, CF Syriza, la crise grecque en était un exemple très impressionnant.
C'est drôle parce que je pensais que vous ne seriez pas forcément d'accord là-dessus, mais je crois que vous allez vous rejoindre puisque Jean-Claude Monod, vous, dans l'art de ne pas être trop gouverné, vous montrez finalement qu'au-delà des écrits politiques qui, je vous cite, donnaient plutôt pour tâche de penser les bornes des pouvoirs, il y a aujourd'hui finalement une question, elle laisse, dit-il, cette théorie, cette théorie des contre-pouvoirs, elle laisse un hors-champ qui est le théâtre des inégalités intérieures et extérieures et les structures de l'exploitation. Et votre livre est aussi, je crois, une façon de montrer que les pouvoirs et les contre-pouvoirs ne sont pas forcément là où l'on croit et qu'un pouvoir politique qui laisse comme ça croître ce pouvoir économique va trop loin dans ce sens, Jean-Claude Monod.
Oui, c'est-à-dire ce qui m'a intéressé, c'est effectivement il y a eu une longue tradition qu'on a beaucoup évoquée jusqu'à présent pour fixer les bornes du pouvoir politique, du pouvoir étatique en particulier, et donc qui a produit des résultats très précieux et qu'il faut défendre. Moi, je défends le libéralisme politique, mais c'est vrai que depuis disons les années 70 ou quelque chose comme ça, il y a eu le développement justement d'une politique qu'on peut dire néolibérale et qui a plutôt produit une sorte de gouvernementalisation de l'État, comme dit Foucault, c'est-à-dire que l'État s'est mis plutôt au service des marchés, s'est mis à vraiment régler ses politiques économiques sur les sanctions des marchés, des agences de notation, à finalement se s'auto-limiter dans sa capacité à mener des politiques sociales ou à admettre des formes de déficit public, etc. Alors bon, les choses ont changé avec la pandémie. On est dans une autre situation.
Oui, tout à coup, la régulation publique est revenue.
Il y a eu ce basculement.
Pardon,
on a un petit décalage dans le son. Il y a eu un retour, d'ailleurs, pour une part effrayant presque, de l'État qui régit jusqu'à nos sorties quotidiennes. Donc là, on est encore changé, on a encore changé peut-être de coordonnées et il faut peut-être aussi revenir à une certaine inquiétude ou vigilance
aux
prérogatives de l'État.
On a parfois l'impression, quand on vous lit Jean-Claude Monod, là, qu'en ce moment, dans le moment que nous vivons, y a les deux risques sont là en même temps. Finalement, il y a le risque de la domination économique et puis il y a le risque d'un pouvoir d'État qui, au lieu d'être lui-même un contre-pouvoir et d'aménager les pouvoirs, devient, face au danger que vous venez d'évoquer, même la pandémie, de nouveau un État un peu tout-puissant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire qu'au fond, il y a deux pouvoirs en même temps qui appellent des contre-pouvoirs plus vigilants, plus critiques que jamais, Jean-Claude Monod?
Oui, je pense d'une certaine façon. Enfin, comme disait Foucault, de ce point de vue-là, d'ailleurs, il y a du danger partout. Donc, ensuite, bien sûr, il faut sûrement prioriser et s'inquiéter peut-être des différents dangers. Donc, je pense qu'il y a eu ce grand mouvement d'affaiblissement de l'État et que nous payons d'une certaine façon avec, par exemple, la politique hospitalière, la politique de santé, la réduction du nombre de lits, etc., et que nous avons payé même dans cette pandémie. Et je pense qu'il y a eu ce mouvement de subordination excessive du politique à l'égard des puissances du marché. Maintenant, les coordonnées effectivement de l'état d'urgence sanitaire, parce que nous sommes à nouveau dans un état d'urgence, donnent à l'État des prérogatives assez extraordinaires, et on se retrouve à effectivement s'inquiéter peut-être d'un contrôle excessif. Est-ce qu'il est normal qu'on ait des amendes pour des choses qui dans d'autres pays n'entraînent pas d'amendes? Est-ce qu'on, voilà, il n'y a pas un excès dans la réduction de nos libertés au nom de la santé? Donc voilà, on se retrouve à s'inquiéter des excès du pouvoir d'État, même si le souci précédent n'est pas absent, et je pense notamment à des réformes qui étaient prévues, comme la réforme des retraites, des choses qui étaient contestées avant et dont on peut se demander si elles seront mises en œuvre après. Et donc voilà, je crois qu'on ne peut pas abandonner un agenda critique pour l'autre, mais qu'on se retrouve dans une situation extrêmement enchevêtrée quant à ces abus. Au fond, il y a ces abus possibles de la puissance économique et de la puissance politique.
Oui, on a l'impression un petit peu que face à tous ces abus, il faut retrouver une forme de confiance dans les contre-pouvoirs, de confiance dans un équilibre de pouvoir dans la démocratie. Céline Spector, est-ce que vous-même vous faites ce diagnostic? Est-ce que vous pensez qu'on a quitté cet équilibre construit historiquement? Est-ce que on est menacé à la fois par une dictature économique et un retour d'un politique qui n'arrive plus à faire confiance aux contre-pouvoirs qui pourtant l'ont défini, qui conditionnent nos vies? Ou est-ce que vous êtes un peu plus optimiste avec un équilibre institutionnel, même si Jean-Claude Monod le défend comme vous?
Oui, merci Frédéric Worms. Écoutez, je pense qu'il ne faut quand même pas, là encore, confondre dictature et démocratie. C'est-à-dire que même les états d'exception,
il y a des degrés, bien sûr.
Voilà, ne sont pas les mêmes. Et donc, certes, personne n'apprécie l'état d'urgence sanitaire, et on espère qu'il ne durera pas trop longtemps, surtout s'il succède à d'autres formes d'état d'exception liées au terrorisme, et Jean-Claude Monod le rappelait de manière très juste. Cela dit, je ne crois pas du tout que la situation soit, par exemple, même comparable entre l'Europe de l'Ouest et la Hongrie ou la Pologne, où les atteintes à la séparation des pouvoirs sont une réalité, où la corruption gangrène l'État, où, voilà, si vous voulez, on n'est pas du tout dans le même, même paradigme. Donc ça pose des problèmes à l'Union européenne, mais en tout cas, il faut pas, disons, que notre inquiétude tout à fait légitime et notre vigilance nécessaire, la mobilisation citoyenne qui est indispensable pour surveiller comme les yeux d'Argus, le pouvoir politique, pour le
les
contrôler
yeux d'Argus,
en permanence.
C'est-à-dire tout autour de la tête,
Voilà, c'est ça, il faut qu'il soit toujours ouvert, il faut que nous soyons toujours vigilants, et comme dirait Montesquieu, la servitude commence toujours par le sommeil. Donc Locke lui aussi parlait de ce peuple dormant qui doit se réveiller en cas d'abus de pouvoir, une intention maligne de l'autorité, si les tentatives d'oppression apparaissent. Oui, il faut que les citoyens soient là et qu'ils soient bien réveillés. Mais si vous voulez, je voudrais surtout pas qu'on confonde cette situation, encore une fois, avec ce qui se passe dans d'autres pays du monde et qui est beaucoup plus préoccupant. La régression des libertés en Turquie est extrêmement préoccupante. À Hong Kong, n'en parlons pas. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut quand même garder la mesure et se dire qu'on a quand même des contre-pouvoirs qui peuvent être très efficaces. Conseil constitutionnel, Conseil d'État peuvent jouer un rôle essentiel, mais évidemment, la presse, mais évidemment...
L'université, la recherche,
l'université, évidemment, l'université. Alors, bon, la science, c'est un peu plus compliqué parce que récemment, il y a toute cette question de savoir si la technocratie doit aussi s'appuyer sur une expertocratie de type... et je n'y suis pas du tout opposée d'ailleurs, mais effectivement, c'est plus compliqué de considérer le conseil scientifique comme un contre-pouvoir. Ça paraîtrait peut-être abusif. L'université peut jouer ce rôle, ça, sans aucun doute.
Ce serait intéressant d'ailleurs de comprendre le rôle de la science aujourd'hui comme pouvoir et comme contre-pouvoir ou comme neutre par rapport au pouvoir. J'ai l'impression que vous nous dites que nos urgences, nos exceptions, Céline Spector, sont encore prises dans une règle, ne font pas que la transgresser, mais ont encore un cadre. Ce dont on a l'impression, c'est qu'il y a un esprit public qui parfois en appelle à l'abandon des grands principes, à la critique d'une liberté qui deviendrait excessive. Jean-Claude Monod, est-ce que c'est pas ça que vous craignez aussi, qu'on abandonne des grands principes comme la liberté académique, la liberté de la science, justement la liberté et de la presse, au nom de dangers qui sont des abus, mais qui sont quand même que des limites, et que finalement, dans ces limites, il faut pouvoir justement critiquer, rechercher, discuter, défendre les grandes libertés, Jean-Claude Monod. C'est plutôt un état d'esprit aussi qu'il faut défendre.
Oui, tout à fait. Enfin, bien sûr, je suis d'accord avec Céline Spector pour faire des différences entre les différents états européen et l'état des libertés dans ces différents états, et a fortiori si on compare avec la Chine ou la Turquie. Maintenant, c'est vrai qu'il me semble qu'il y a une tendance un peu de fond à une certaine érosion justement de cet esprit des libertés publiques, Et on voit des démarches qui, à mon avis, sont potentiellement attentatoires à certaines de ces libertés. Bon, je pense par exemple cette initiative de deux députés de mener une sorte de commission d'enquête sur l'usage que les universitaires font de leur liberté de recherche, qu'on a voulu d'ailleurs encadrer par la mention,
sur les sciences sociales, une sorte de contrôle politique sur les sciences.
Sur les sciences sociales en particulier, qu'on veut encadrer par une référence aux valeurs de la République, qui est un motif assez flou. Or, la liberté de recherche ne doit pas être encadrée par des limites idéologiques. Donc, je trouve qu'il y a, c'est juste un exemple, mais je pense que les certaines dispositions de la loi de sécurité sur la sécurité globale, même d'ailleurs certaines dispositions du projet sur le séparatisme, peuvent être tout de même des restrictions à des libertés prises au nom de certains dangers. Et encore une fois, certains de ces dangers sont réels, mais au fond, parfois, on y répond à côté. Je veux dire, on ne répond pas à un meurtre abject qui a été commis suite à des appels à la haine en ligne en restreignant la liberté académique. Je pense qu'on confond les plans. Et il y a un certain nombre de points sur lesquels je pense qu'il faut porter notre attention pour éviter que justement une situation de confusion où au nom de certains dangers on va porter atteinte à des contre-pouvoirs. Et je pense qu'il y a vraiment pas de démocratie digne de ce nom sans des contre-pouvoirs qui ont réellement leur autonomie, leurs principes propres de régulation, et qu'il faut éviter de confondre les plans. Il faut éviter aussi que la police dicte directement les lois qui la concernent. Voilà, donc il y a des choses que je trouve assez inquiétantes dans les évolutions récentes, sans que ça nous place évidemment dans une dictature. Je ne suis pas du tout pour cesser de faire des distinctions élémentaires
sur le
plan du jugement politique. Il me semble qu'il y a il y a certains glissements.
On préférerait progresser plutôt que régresser, dans la mesure même où, comme vous l'avez montré l'un et l'autre, les contre-pouvoirs ne sont pas des luxes, ne sont pas secondaires, mais sont plutôt des conditions de notre vie démocratique et de notre vie tout court. Céline Spector, je sais que vous interdisez en partie, en tant qu'historienne et philosophe politique, de commenter directement l'actualité, mais si vous aviez une inquiétude ou un désir, là aussi, à exprimer quelque chose pour renforcer cet équilibre du pouvoir et du contre-pouvoir dont on a bien vu qu'il était central pour vous, face aussi à un spectre de l'injustice que vous défendez toujours aussi dans votre travail. Qu'est-ce que vous diriez quand même sur la situation présente en prenant le risque d'en dire quelque chose comme ça vient?
Non, mais disons que la situation en France m'a également préoccupée, et il va de soi que j'ai été notamment très inquiète de voir que on était prêt à instituer quelque chose comme un maccartisme, c'est-à-dire un contrôle effectivement des sciences humaines, de la philosophie en particulier, par peur d'une diffusion de doctrines indigénistes, intersectionnelles, enfin avec un grand mélange, tout ça étant qualifié potentiellement d'islamo-gauchisme. Tout ça, ça m'a beaucoup inquiétée, évidemment, parce que disons que ce qu'il faut...
Pour des raisons de principe, finalement, qui tiennent à cette question des contre-pouvoirs. Je suis obligé de vous brusquer un petit peu, parce qu'il nous reste moins d'une minute.
Qui tiennent effectivement à la nécessité absolue, et Jean-Claude Monod a employé à l'instant ce terme, de l'autonomie. Je crois que la démocratie, c'est l'autonomie politique, le peuple se donne à lui-même ses lois, et on n'est pas autonome en démocratie si on n'a pas aussi des contre-pouvoirs autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont statutairement totalement indépendants du pouvoir politique, qu'il soit législatif ou exécutif. Et donc ça, je pense que c'est cette notion d'autonomie statutaire qu'il faut défendre à tout prix, et par exemple la logique des corps dans l'université est une réponse possible, enfin en tout cas un moyen possible de l'autonomie statutaire.
Pour construire les cadres des contre-pouvoirs, vous l'avez illustré par votre liberté académique, Céline Spector et Jean-Claude Monod, et je vous en remercie. À présent, c'était ce soir les contre-pouvoirs au cœur de toutes les batailles, et il y en aurait encore beaucoup à analyser. C'était avec et grâce à Céline Spector et Jean-Claude Monod, avec et grâce aussi à Laurie Vachon, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Zora Vignet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Nous retrouvons vendredi prochain à la même heure et sur la même antenne.